Bonjour et merci d'être venu à cette table ronde. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu est graphiste, scénographe. On le connaît surtout comme évidemment auteur de bande dessinée, auteur complet puisqu'il est dessinateur et scénariste. Et chacune de ces bandes interroge le média, celui de vraiment de la bande dessinée, de l'impression, de l'objet livre, de la narration aussi, de la type spécifique de la bande dessinée, les paradoxes, la science et évidemment la logique. Et une des grandes qualités, c'est qu'il y a un jeu de recherche qui pourrait finalement être expérimental, mais qui reste toujours ludique et donc extrêmement jubilatoire à lire. Et puis, à côté, il y a Sylvie Lainé, alors que l'on ne présente plus, mais bon, comme je dois le faire, je vais tout de même m'y coller. Professeur en sciences de l'information et de la communication, et auteur de nombre de romans et nouvelles de science-fiction qui lui ont valu de remporter 3 prix Ronnie, un prix Bob Morane, Grand Prix de l'Imaginaire, et ainsi de suite. Enfin bon, je ne vais pas donner toute la liste, elle est extrêmement importante. Alors, en premier temps, on a souvent attribué à votre œuvre un certain nombre de qualificatifs, et surtout, on a établi des ponts avec des auteurs beaucoup plus classiques, et généralement plutôt d'influence littéraire, à savoir, bon, par exemple, Kafka. Alors, le Kafka, c'est assez évident, ne serait-ce que par le nom d'un des personnages récurrents. Pérec, Buzzati, Borges, Pessoa. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cet héritage littéraire? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que vous l'assumez? Ou alors est-ce que c'est tout à fait fortuit? Quelle est votre relation par rapport à cela?
Ah ben non, bien sûr, il n'y a rien de fortuit. C'est vrai que quand on découvre Borges ou Kafka, quand on est adolescent et que l'on... ça marque forcément. Alors, encore faut-il évidemment être sensible à cette littérature-là, ou en tous les cas à ces climats, parce que c'est vrai que Borges et Kafka, avant d'être des grands raisonneurs de l'existence et de la métaphysique, ils sont aussi des merveilleux écrivains d'atmosphère et de climat. Voilà. Et donc, même si on ne comprend pas tout Kafka quand on a 15 ans, il en reste certainement quand même une idée que c'est une personne qui a essayé d'aller sur le champ de l'ineffable, quoi. Et je pense que ça, c'est une chance de pouvoir découvrir ça jeune.
Oui, et puis après, évidemment, avec les relectures, on a d'autres dimensions qui, notamment, peuvent échapper aux caricatures que l'on a sur le monde de Kafka. Ce n'est pas forcément l'extérieur qui est kafkaïen, comme on dit, mais c'est tout simplement aussi l'individu qui fabrique son propre piège.
Mmh. Tout à fait, oui. Et puis pour Borges, ce qui me plaisait beaucoup dans Borges, c'était le fait que, un peu comme d'autres auteurs, même comme Lovecraft, par exemple, la possibilité, enfin, le potentiel de ces écrivains-là de pouvoir, justement, parler de paradigme ce matin, mais de pouvoir installer un paradigme entier en très peu de mots et très peu de phrases, donc avec des nouvelles. Et ça, il y a quelque chose de magique. On est dans de l'essence de littérature, on est vraiment dans du suc, vous voyez, chaque mot compte, chaque virgule vraiment est là et pas ailleurs, donc ça c'est fort, quoi.
Alors il y a l'influence littéraire, il y a aussi une influence de la BD assez évidente. Alors, concernant le jeu sur les pages, évidemment, on pense immédiatement à Fred et au jeu même sur la planche et sur la page, sur l'objet livre, ça c'est très clair. Et puis aussi à un auteur de BD dont on parle insuffisamment et qui a aussi œuvré dans le monde de l'animation, notamment dans les années 70, qui est Francis Mas, qui lui aussi est un grand inventeur, mais pour des raisons qui m'échappent. Moins connu que Fred en France.
Oui, parce que c'est normal, parce que déjà Fred est arrivé à un moment où dans la bande dessinée, on pouvait publier dans des journaux. Et même si on n'était pas très populaire, c'était le cas de Fred, on pouvait quand même continuer à publier. Et le pilote des années 70 était tenu par un grand bonhomme qui s'appelait René Goscinny et qui encourageait évidemment des gens comme Fred à ne pas arrêter parce que Fred savait très bien qu'il était très peu lu. Enfin, les Philémons, bon, il y avait un petit fan club, mais c'était vraiment pas du tout populaire. Et Goscinny disait toujours à Fred, ah, mais de toute façon, on fait pas des bandes dessinées pour plaire aux gens, on fait des bandes dessinées pour que ça nous plaise avant tout à nous. Donc c'était vraiment quelqu'un avec une vraie éthique. Et Simas avait œuvré à l'époque, dans les années 60-70, un peu comme Fred, je pense qu'il aurait été certainement peut-être plus populaire. Mais cela dit, Mas a quand même été très populaire aussi dans les années 70, puisqu'il travaille dans Charlie Mensuel, il a même bossé dans l'écho des savanes, dans Actuel. Enfin, à un moment donné, Mas, il dessinait dans beaucoup de choses. Il a eu ce moment, on va dire, de gloire, mais dans un milieu un peu underground, un peu comme Crumb aux États-Unis, vous voyez. Mais ce qui est fort chez Francis Mas, c'est quand je l'ai découvert, c'est lui qui m'a vraiment... qui m'a véritablement montré que la bande dessinée était intéressante et qu'il y avait vraiment une aventure à vivre avec la bande dessinée, c'est que il m'a montré qu'on pouvait vraiment aller plus loin que la simple invention d'histoire. C'est-à-dire qu'avec Francis Mas, tout prend sens, c'est-à-dire à la fois la vie, la science. Le héros, le personnage, le non-sens, enfin, il y a une espèce de cohérence à la fois extrême et en même temps très profonde avec plein de niveaux de lecture. Alors ça peut rebuter le lecteur parfois parce que c'est très touffu, vous voyez, c'est très, en plus son dessin est très fouillé, c'est truffé de détails, oui, donc il faut vraiment rentrer dans Mas. Mais quand on est rentré dedans, on s'en ressort plus, quoi. C'est vraiment très très fort. Donc, ouais, c'est vraiment c'est celui par qui je suis arrivé en bande dessinée.
Je peux intervenir, je peux réagir. Alors,
tu es là pour ça.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je résiste autant que je peux à l'aspiration qui est créée par l'image qui défile, que vous avez sur l'écran, parce que ce qui défile a une capacité extraordinaire à procurer un espèce de vertige philosophique et métaphysique qui vous attrape vraiment aux tripes. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Je pensais, Marc-Antoine Mathieu, moi, je suis pas du tout une spécialiste ni de la bande dessinée, ni de l'image. Maintenant, je peux vous dire que je suis extrêmement sensible à ce que fait passer ce texte, qui, justement, est assez difficile à dire en mots, parce que ça relève presque de la métaphysique. Dans une autre table ronde qu'on a eue ici, Florence Dupré-Latour disait que sa passion pour la bande dessinée tenait en partie au fait qu'il y avait des cases qui racontaient des choses ponctuelles et qu'il y avait tout un travail de reconstruction à faire du point de vue de ce qui se passait entre les cases. Marc-Antoine Mathieu y fait quelque chose de bien pire parce que les cases, il les explose complètement et même ça est pulvérisé. Donc je suis très touchée par les mots qu'a eu Marc-Antoine Mathieu et je le ressens comme ça aussi. Si on a le même projet très ambitieux d'essayer de faire passer cette dimension, oui, je sais pas comment dire mieux que philosophique, métaphysique, l'infini, le trou noir, l'aspiration, le vertige philosophique que procurent certains auteurs qui ont été cités. Il y a sans doute que par la forme courte qu'on peut y arriver, parce qu'elle aussi, elle est très elliptique et qu'elle ne raconte pas. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots, plus qu'on ne peut les évoquer en tant que ligne de force qui traverse l'image. Donc je suis très touchée par la convergence des démarches.
Alors justement, j'allais vous poser une question à vous deux. La science-fiction est assez exigeante et généralement, quand on a une idée de roman ou de nouvelle, Après, il y a le véritable travail qui commence, à savoir celui de développement pour non seulement l'enrichir, raconter une histoire, mais aussi garder une cohérence globale, même si ça part dans tous les sens, même le chaos doit être maîtrisé. Dans le cadre de vos BD, il y a souvent des idées qui sont finalement, je ne vais pas dire farfelues, mais qui sont complètement hors normes. Et du coup, il n'y a rien à quoi se rattraper, se raccrocher pour le développement. Alors, question à l'un et l'autre, est-ce qu'il vous arrive d'avoir à certains moments des blocages, d'avoir à attendre que la situation devienne plus mûre, c'est-à-dire à mettre un projet en attente, quelques années, quitte à en faire un autre entre-temps. Bref, comment se passe le développement quand une idée est hors norme et qu'elle est justement extrêmement délicate à fabriquer, à mettre en œuvre ?
Moi, je vais être bref, ça m'arrive tout le temps d'être bloqué. De temps en temps, je ne suis pas bloquée du tout, je ne sais absolument pas pourquoi. Autant il est assez facile de conduire et de mener un projet qui est clair, qui serait en gros de raconter une histoire, autant quand on essaie de parler de quelque chose qu'on ne comprend pas bien et qu'on ne maîtrise pas bien, trouver l'angle sous lequel il faut le faire, on ne sait pas trop comment ça mûrit, mais moi ça ne sort pas tout seul.
Je pense qu'on est tous un petit peu pareil, c'est-à-dire que même quand on n'est pas, même quand on n'écrit pas ou qu'on ne crée pas entre guillemets, on est tous dans un, comment dire, ce serait simple si on était des entités entières à tout le temps à 100%. Or, c'est pas possible. On est tellement poreux et on est tellement aussi plusieurs finalement, nous les humains, que forcément ça amène au doute, quoi. Et alors, si on commence à faire des livres ou créer des œuvres, là, du coup, c'est encore pire. C'est-à-dire que le doute devient une profession, presque. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, bah, après, c'est de la cuisine. Moi, je sais que quand je doute sur une idée, ça veut dire que elle est pas prête, quoi, tout simplement. Donc, elle va être mise de côté. Elle est, en général, ça prend la forme de petites notes dans des cahiers ou dans des carnets. Et puis il y a des fois, ça reste à jamais des notes. Et puis d'autres fois, ça pousse, ça grandit. On ne sait pas vraiment pourquoi. Moi, j'ai un peu le luxe de pas être obligé de gagner ma vie avec la bande dessinée. J'ai jamais cherché, d'ailleurs. J'ai jamais voulu absolument vivre de la bande dessinée. Ce qui fait que j'ai toujours été un peu léger par rapport à ce médium-là. Et donc, les histoires, j'ai toujours eu la possibilité de les laisser grandir quand elles devaient grandir par elles-mêmes. Donc, effectivement, là, c'est là où peut-être on diverge un peu avec Sylvie. C'est que moi, les idées, si elles ne viennent pas, elles ne viennent pas. Si elles viennent, elles viennent. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, elles finissent par... ça finit par faire une mousse ou une petite plante, et puis et au final ça finit par donner quelque chose. Et toutes les images que vous voyez là sont issues de livres qui sont tous un peu grandis comme ça. Il n'y a jamais eu de, je suis jamais vraiment forcé à trouver une idée. En revanche, mon travail, il consiste plutôt à rendre finalement au lecteur la surprise ou l'étonnement que j'ai pu avoir une idée, que j'ai pu avoir quand j'ai eu cette idée qui m'a séduite, qui m'a interrogé. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison du coup que ça se passe également chez le lecteur. Tout le travail, ça va être de redonner l'esprit et l'intérêt que j'ai eu pour cette idée ou un personnage ou un dialogue.
Moi, j'ignorais tout à fait que Marc-Antoine Mathieu, que ça n'était pas son activité principale et majeure à plein temps de créer ces albums, ces images extraordinaires. Donc d'abord, c'est une découverte, je suis surprise. Du côté des auteurs qui écrivent du texte, je crois que c'est le cas de à peu près tout le monde. Moi, bien évidemment, c'est le mien, parce que c'est pas en écrivant de temps en temps une nouvelle que, même si je ne faisais ça qu'à plein temps, je mangerais pas beaucoup.
Oui, mais effectivement, comme il y a aussi l'occupation très importante de scénographes et d'affichistes, quels sont, et là encore, il y a peut-être encore davantage de projets justement de passerelles qui se font entre les dernières productions de BD et le travail sur, enfin, la déclinaison sur d'autres médias. Comment se passe justement le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, à savoir avec deux métiers différents? Et évidemment, comment se passe la porosité, parce que c'est rarement étanche, hein, et quelle est l'idée, l'intérêt et la manière dont vous voyez la possibilité et la méthode pour passer d'un média à l'autre, y compris même pour transposer un projet d'un média à l'autre?
Dans les deux cas, je pense qu'il y a une volonté, un désir de raconter une histoire. Donc dans les scénographies qu'on fait avec l'atelier Lucilhomme, donc qu'on fait vraiment en groupe, de toute façon, il y a toujours à la base une histoire, même si le visiteur de l'exposition ou de l'installation de la scénographie ne s'en rend pas compte. En définitive, au début, il y a quand même ça. Et on va créer un espace, un climat, une atmosphère avec de la musique, du son, des décors, toujours avec l'idée qu'il y a une histoire. Et d'ailleurs, les visiteurs, en général, ont un parcours un peu obligé. Ce ne sont, sont pas des scénographies ou des muséographies dans lesquelles on est libre de se déplacer. On téléguide un peu, exactement comme dans un récit. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas si étanche que ça. Il n'y a pas de docteur et de mister. En fait, c'est simplement le prolongement. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup de noir et beaucoup d'ombre dans mes bandes dessinées pour les mêmes raisons que dans nos scénographies avec Lucilhomme, on va utiliser l'ombre et qu'on se posera toujours la question de l'ombre et de la lumière, puisque c'est pour nous une vérité qu'il se passe plus de choses finalement dans l'ombre que dans la lumière. Hein, il se passe plus de choses, évidemment, pour le regardeur ou le lecteur. C'est toujours dans les champs de noir ou dans un ciel blanc que, finalement, l'imaginaire du lecteur peut se projeter. Donc voilà, donc c'est très cousin. En fait, ce sont des activités cousines. La grosse différence, c'est que quand on est tout seul à dessiner, on peut vraiment se concentrer et rechercher un territoire intérieur, alors qu'à plusieurs, c'est une aventure collective. Donc c'est vraiment très très différent. Les richesses ne sont pas c'est pas les mêmes mines, en fait. Ouais.
Mais alors, concernant les albums, généralement, ils se retrouvent avec des formats pas toujours classiques. 3 secondes, par exemple, est un format carré. Avec un gaufrier, bon, mais ça, c'est pas très très important. Mais par contre, il y a quand même des albums dont les planches sont ajourées d'anticases, c'est-à-dire en fait de trous carrément dans la feuille de papier. Il y a, dans le décalage, là, c'est carrément, on prend la BD dès la couverture en cours de récit, et donc on la finit décalée également. Mais en plus, il y a des images manquantes, arrachées à l'intérieur. Comment les éditeurs, enfin en particulier Delcourt, qui finalement est l'éditeur de Julius Corentin, accepte des projets pareils? Est-ce que ça coûte plus cher? Enfin, la fabrication du livre est pas classique. Est-ce que c'est géré? Et est-ce que vous repartez du rendez-vous indemne après la proposition?
Moi oui, le chef de fab pas toujours, mais c'est pas des choses forcément très très compliquées. Ça paraît comme ça, il y a un effet, mais c'est comme les effets au cinéma des fois, ou l'effet du prestidigitateur, ça peut paraître compliqué. En définitive, souvent les tours sont assez simples, hein. c'est des petits trucs d'illusion. Alors c'est vrai que pour le décalage là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait ajuster des pages déchirées. Ben, oui. Avec des textes qui malgré tout se lisent, même si les pages sont déchirées. Donc effectivement, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est jamais infaisable. Aujourd'hui, l'industrie du papier, les imprimeurs, les machines permettent des prouesses très intéressantes. On s'en perçoit en regardant les pop-up, tous ces livres qui se déplient, qui se déploient dans l'espace et qui sont... souvent plein d'inventions et magnifiques. Je pense, et de toute façon, on ira de plus en plus vers ça, puisque c'est vrai que le, avec le numérique qui arrive, ça va forcément un peu changer le statut du livre. Vous voyez, oui, le livre va devenir de plus en plus livre-objet. Il va falloir qu'il se défende, un petit peu comme la peinture, elle a bien fallu qu'elle se défende face à la photo, et ça a donné l'impressionnisme. Donc, on peut tout à fait imaginer que dans le champ du dessin pur, de la représentation, on va dire figurative, qui peut exister dans les livres, et notamment dans la bande dessinée, on va voir arriver des nouvelles manières d'aborder le récit, même d'aborder la forme même du dessin. C'est déjà le cas, hein. Il y a certaines bandes dessinées qui commencent, qui sont abstraites, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éléments figuratifs. Donc ça, c'est très intéressant. C'était impensable il y a 20 ans.
Oui, tout à fait. Mais alors, pour le, parce que ça, c'est quand même une question, c'est presque un peu une question personnelle, mais pour le décalage avec trois pages qui sont finalement assez soigneusement déchirées, et effectivement, dont la déchirure est parfaitement synchro, on peut lire les bulles, on peut lire le début d'une case, enfin, c'est... là-dessus, en termes de calage, du décalage, on peut dire, bon, ça fonctionne, mais... ça a été mécanisé, ce déchirage.
Enfin, c'est une forme de découpe. En fait, il y a trois pages donc de déchirés dans le livre, mais c'est des fausses déchirures.
Ça n'a pas été fait au Bangladesh avec des pauvres gens, non.
Non, 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 non. Par contre, ça a quand même été imprimé en Chine parce qu'aucun éditeur européen voulait se risquer à assembler, enfin, à faire les formes de découpe avec le calage que ça nécessite, et ensuite à les assembler, si vous voulez. C'est des cahiers différents. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la technique de la fabrication du livre, mais il y avait trop de risques. Moi, en Chine, il y a toujours la possibilité que si la machine n'y arrive pas, l'humain peut remplacer la machine. Quoi. À une grande échelle, c'est encore jouable. En Europe, c'est plus possible. La machine, d'une certaine manière, a un peu définitivement gagné de ce côté-là sur notre vieux continent.
Mais d'ailleurs, j'ai toujours eu le sentiment que les premiers tirages n'étaient pas si importants que ça, parce qu'ils sont épuisés très rapidement et on a vite une nouvelle impression. Alors c'est pour faire marcher le marché de la... pour faire fonctionner le marché de l'édition originale, ou alors c'est tout simplement parce qu'ils s'en vendent énormément dans les premiers jours?
Non, c'est pas ça. C'est que les éditeurs aujourd'hui travaillent beaucoup plus en ce qu'on appelle le flux tendu qu'à une époque. Pourquoi? Parce que là encore, la machine, c'est-à-dire l'informatique, permet de suivre au plus près les courbes de vente d'un livre. Alors, ça veut dire que l'éditeur aujourd'hui, plutôt que d'imprimer 15 000 exemplaires en sachant qu'il peut en vendre que 10 000, mais il pourrait en vendre aussi 20 000, à une époque, on en éditait plus. Et puis on voyait. Maintenant, on peut en imprimer juste le nombre et attendre 15 jours ou 3 semaines, juste le temps que de la réédition.
Ou pilonner quand il y en a trop.
Alors après, ça marche pour, on va dire, des livres qui sont plus ou moins classiques. On peut imaginer qu'un éditeur va naturellement avoir certaines martingales. Mais dès qu'un livre est un peu particulier ou différent ou par exemple qui peut faire un effet buzz sur Internet, du coup tout ça vole en éclats. Enfin, c'est ces vérités-là, évidemment. Voilà, c'est simplement pour ça. Effectivement, ouais. Le décalage et sens ont été en rupture. Alors le problème, c'est qu'ils ont été en rupture assez longtemps parce que comme ils étaient imprimés en Chine, et du coup, le temps de rééditer, le temps de la traverser en bateau, voilà. Ça, c'est une petite vicissitude des fois de l'édition. Mais enfin, vous voyez que ça marche dans ce sens-là que dans l'autre sens.
Oui. Sylvie, une remarque par rapport à ça?
Oui, j'écoutais Marc-Antoine nous parler de livre-objet face au numérique. Et effectivement, c'est une vraie question aussi pour les auteurs de textes, mais elle est bien pire pour les gens qui écrivent, parce que avoir un objet qui a un véritable intérêt en tant qu'objet, alors que qui n'est composé que de matériaux textuels, ça ne marche pas du tout. Donc, il y a des tas d'expérimentations qui se font. Je voulais vous demander si vous aviez eu l'occasion d'en avoir de ce type-là. Un petit éditeur qui s'appelle La Petite Bulle d'Univers, qui crée des livres graphiques dont le principe est de partir du travail d'un plasticien, d'un peintre ou d'un sculpteur, puis de faire appel à un auteur pour écrire dans l'univers du peintre. J'ai eu l'occasion d'avoir une expérience de ce type-là l'année dernière. Elle est très intéressante. Il y a eu un infographiste qui a travaillé sur la complémentarité entre les deux formes. Travailler avec des auteurs qui sont dans votre univers, mais qui interviennent dans un second temps. Est-ce que c'est une expérience qui vous est arrivée?
Non, ça ne m'est pas...
C'est assez rare. Moi, je pense que dans l'avenir, c'est une des formes de livre-objet qui nous permettrait peut-être à nous, auteurs, de continuer à vivre en dehors du virtuel.
Ceci dit, une parenthèse, c'est vrai que le livre-objet en BD est peut-être plus simple en France que dans d'autres pays, dans le sens où il s'agit réellement d'un livre avec du cartonnage, avec une qualité de papier, avec... on n'est pas du tout dans le fascicule, par exemple, ou même le format manga le permet moins facilement, le comics américain moins. Il faut, chez nous, la BD est quand même un livre, mais à part entière, un objet, pas un truc qu'on lit et qu'on jette ou qu'on abandonne sur une banquette. Donc, ça encourage ce genre de recherche. C'est-à-dire que j'ai remarqué un point assez intéressant, c'est que vos livres s'exportent très bien en Allemagne, par exemple. Par contre, qu'est-ce qu'il en est des États-Unis, justement? Est-ce qu'il s'exporte là-bas?
Il y a Mémoire morte qui est parue aux États-Unis. Mais bon, le problème des États-Unis, c'est que... Bon, eux, ils sont déjà très comics. Donc, tous les questionnements ou les histoires que je pourrais, moi, raconter avec mon dessin très noir et blanc, très particulier, encore une fois, très... vieux continent, eux, ils les développent, mais dans le champ du comics ou dans le champ d'un post-comic, vous voyez, c'est vraiment un... C'est comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est pareil, ils sont sur une autre... sur d'autres codes, voilà, tout simplement. Donc ça s'exporte moins pour ça. Et puis en plus de ça, eux, ils n'ont pas forcément la culture du livre comme nous, on l'a. C'est-à-dire que, les Américains... Le numérique prend beaucoup d'importance là-bas. Ils sont 20% maintenant. Le marché du livre numérique atteint 20% et à mon avis, il augmentera quand même un petit peu. Tout ça pour des raisons simplement qu'ils ont moins de librairies que nous. Les villes sont plus espacées. Donc, acheminer un livre coûte beaucoup plus cher, etc. Donc, tout ça fait que la bande dessinée française s'exporte pas très bien aux États-Unis. Il y a plein de tentatives. Delcourt est en ce moment en train de mettre un peu le paquet pour essayer justement au moins de montrer que l'heroic fantasy française vaut celle américaine. Donc voilà, mais je pense que c'est... Non, on n'est pas dans le même... on n'est pas dans le même vecteur, c'est ça, dans les mêmes vecteurs de l'imaginaire. Mmh. C'est ça. Il faudra du temps pour que cet échange...
Tout à fait, on peut trouver plein de paradoxes, plein d'utilisations, même de multiples univers, mais ça va être effectivement dans le code du comics avec super-héros et différentes...
Oui, parce que vous voyez même, par exemple, quelqu'un comme Charles Burns, El Borba. Si on regarde El Borba, qui est pourtant une bande dessinée extrêmement inventive, très forte, graphiquement, moi, j'aime énormément. Même là, vous voyez que en trame de fond, il y a le comics, il y a le déguisement du super-héros qui est là. Donc c'est très... Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tout le monde ne comprend pas El Borba, enfin ne rentre pas dans Charles Burns en France, hein, de la même manière. Hein. Très peu de gens ont lu Charles Burns.
Même le début de Jimmy Corrigan du Chris Ware, de toute façon, il essaye d'abord de se jeter en haut d'un immeuble habillé en Superman. Bon, évidemment, il s'éclate sur la route. Après, tout le reste de la bande, c'est un drame psychologique quotidien, mais on ouvre quand même la bande avec une icône qui est typiquement américaine.
Oui, puis alors lui, on parle vraiment de l'exception qui confirme la règle. Hein, c'est-à-dire que Chris Ware, lui, c'est peut-être justement le plus européen des auteurs américains.
Ouais. Optimiste. On va aller un peu du côté de la science pour justement vous deux. C'est que il y a dans vos albums une influence évidente de la logique et des mathématiques. Jusque même au titre, il y a... on le voit. Alors là, bon, le 3 secondes qui est clairement basé entièrement sur le trajet que met la lumière que parcourt la lumière en 3 secondes, avec une obligation d'ailleurs, parce que finalement ça fait beaucoup de kilomètres, donc on passe par la Lune. Et puis il y a évidemment le trompe-l'œil avec le dessin, puisque je commente en même temps. Dieu, on n'est pas tout à fait dans la science. Encore qu'il parle du nombre d'atomes, du nombre de molécules contenues dans une pièce, etc. Alors, Bon, il y a évidemment la dimension avec virgule. Quels sont vos rapports aux mathématiques? Parce que bon, vous avez une formation qui est celle d'un graphiste, vous avez fait les Beaux-Arts. Quelles sont vos relations aux mathématiques et à la science? Est-ce que c'est un sujet qui vous a toujours intéressé? Et comment vous réussissez à l'intégrer au sein d'une narration? Évidemment, la question valable pour Sylvie, sauf que Sylvie a une formation scientifique, ce qui change légèrement la donne.
Je commence avant. Je lis beaucoup d'écrits scientifiques, mais c'est pour me délecter en fait de la science, dans la mesure où c'est vrai qu'écrire lire des écrits scientifiques permet de rêver. Ça, pour moi, c'est un magnifique terrain à rêverie. Je pense que je lis plus de la science finalement pour rêver que pour lire le monde. Même si évidemment c'est toujours intéressant de savoir que voilà, toute cette salle n'est faite que de vide. Si on atteignait la frontière de Schwarzschild, bon bah voilà, il y a tout d'un coup plus que du vide et il n'y a plus rien. Ça, c'est intéressant de le savoir, mais ça, c'est surtout intéressant de rêver là-dessus. Voyez, et donc toutes ces rêveries font germer chez moi des paysages, des concepts, des systèmes, hein. Donc tous mes récits, sauf celui-là là, qu'on voit, qui est lui bien réaliste, mais en général, mes histoires sont plus des concepts et des structures, des systèmes. En ce sens-là, d'ailleurs, je me sens des fois plus architecte finalement que réellement écrivain ou dessinateur, mais ils sont souvent issus effectivement de lectures scientifiques. Et quand dans le décalage, le personnage principal se rend compte que chaque grain de sable qu'il voit dans cette immensité est un mot de 26 lettres. Ça, c'est complètement issu d'une réflexion un peu philosophique, mais qui est issue d'un esprit un petit peu scientifique, enfin, d'un esprit intéressé par la science. Parce que, et là, ça rejoint un peu Borges, hein, c'est un peu l'infini de Borges, c'est-à-dire que si on... je m'étais amusé donc à développer dans le décalage le fait que si chaque grain de sable était une possibilité d'un agencement de 26 lettres, donc d'un mot avec la langue française par exemple, et que chaque possibilité c'est un grain de sable, on arriverait à un volume qui fait la taille du soleil. Et ça, c'est intéressant de le développer, parce que tant qu'on ne l'a pas dit et qu'on ne s'est pas amusé à le calculer, on ne s'en rend pas compte. Moi-même, quand j'ai commencé à le calculer, je me suis dit, bon, je vais arriver à une grande étendue, peut-être une plage, peut-être voilà, la plage des Sables d'Olonne. Et en fait, non, ça fait une masse absolument, absolument effarante. Et donc, quand on réfléchit à ça, bon, et quand on a une idée comme ça, on se dit, tiens, ça peut être intéressant de la faire passer au lecteur. C'est comme quelque chose là-dedans de à la fois effrayant et en même temps de merveilleux.
C'est la bibliothèque profond. De Babel. Hein.
C'est la bibliothèque de Babel. C'est l'infini de Borges. Alors après, il y a l'infini de Bianchi, qui est l'infini de Borges, mais encore plus à la puissance je ne sais combien. Voilà, donc ça peut donner comme ça des petites portes au lecteur pour aborder, par exemple, l'idée d'infini, et pour essayer d'aller plus loin, au-delà du fait que, d'emblée, ça peut être aussi porteur de poésie.
Sylvie ?
Oui, alors, je pense qu'en littérature, on a la hard science qui exprime une fascination, justement, pour la science, mais que le principal intérêt de la hard science... pour le lecteur, c'est le vertige et la poésie qu'elle peut porter. Parce que ce qu'on ne comprend pas très bien, mais qu'on ressent puissamment comme idée, ça peut devenir extrêmement poétique, littérairement. Moi, je ne me sers pas du tout de la science comme ça. Peut-être parce que j'ai des bases scientifiques. Donc, j'aime toujours la science, mais je suis incapable de faire rêver avec dans les domaines que je maîtrise à peu près. Je n'ai jamais mis en scène une intelligence artificielle. Et je pense que je ne le ferai jamais, parce que j'y crois pas, je ne peux pas, avec ce que j'en connais. C'est utile quand même quand on veut parler de science et qu'on aime ça, parce que ça aide, en gros, à faire passer avec simplicité les bons mots, le bon vocabulaire, les concepts à peu près proprement, de manière à ce que personne ne soit choqué. Mais je pense qu'il y a très peu d'auteurs qui ont une formation scientifique et qui arrivent à faire rêver avec la science elle-même et sa théorie. À part Greg Egan, qui est vraiment un auteur extraordinaire, et je trouve que Il y a des similarités dans vos approches entre celle de Greg Egan et la vôtre sur le plan graphique. Il y a vraiment très très peu de gens qui sont capables de faire ça.
Oui, Asimov l'a fait, enfin pour moi en tout cas. J'ai eu le vertige avec Fondation et...
C'est pas très bien. Asimov était un extrêmement bon vulgarisateur scientifique. Il était chimiste et physicien. La psychohistoire est un concept très intéressant sur le plan des sciences humaines et sociales, mais c'est pas ce qu'on appelle de la hard science actuellement. Pas tout à fait la même chose, je pense. Mais enfin, bon, très intéressant aussi. Hein. J'ai adoré Fondation aussi.
Il y a. Alors. Un point assez important, là justement on voit bon, un extrait de 3 secondes. Le découpage est toujours assez travaillé dans le sens où il fait partie intégrante de la narration. Ça fait partie du développement même narratif. Et alors parfois, encore un autre exemple de case, enfin de planche, parfois on a des bandes qui sont bavardes, j'irais dire par exemple... le dieu est assez bavard. D'autres fois, il y a au contraire une absence complète de dialogue. Le 3 secondes par exemple, ou d'autres où il y a par contre toute une narration qui est organisée avec les cartouches, c'est-à-dire finalement une voix off, c'est le cas par exemple du dessin. Quel est votre rapport entre... Parce que c'est toujours une des grandes questions en BD, quel est le rapport... entre dessin et texte, comment vous le gérez vous-même dans votre production ?
Ça vient un petit peu tout seul dans la mesure où j'essaie simplement de trouver au départ la meilleure forme pour véhiculer l'histoire. Donc il y a certains récits qui naturellement vont aller vers un texte off. Si par exemple c'est un récit intimiste comme dans le dessin, d'autres fois dans Julius on est sur un schéma beaucoup plus classique parce que comme les histoires sont tordues, autant faire simple dans la forme. C'est pas la peine d'en rajouter parce qu'après on peut perdre l'attention du lecteur aussi. Hein. Il y a un minimum d'efficacité à produire dans un médium qui est déjà très codé. Faut jamais perdre ça de vue quoi. Et puis il y a d'autres fois, comme là dans 3 secondes, où pareil, c'est naturel, puisque c'est l'histoire d'un zoom, le problème de la forme ne se pose quasiment pas, sauf ici à essayer de trouver effectivement les bons incréments pour que la page soit à peu près esthétiquement correcte. Quoi.
Alors, concernant les pages et planches, bon, mis à part la queue... Oui, je sais, ça fait bizarre, mais c'est le titre, vraiment. Je prononce peut-être mal, je ne sais pas. À part dans cet album-là, bon, généralement, il n'y a pas de couleur. On est plutôt en niveau de gris, voire uniquement en noir et blanc. Le choix est assez radical. Il est généralement considéré comme peu commercial par les éditeurs. Là, par exemple... Pour le duo, on a quand même des valeurs de gris, mais c'est assez rare. Alors, ça confère aux planches, du coup, un travail vraiment très, très graphique et très expressionniste. Mais comment est-ce que vous arrivez à le gérer et est-ce que vous n'avez pas envie de passer, finalement, à la couleur pour un album à venir ou même de façon générale?
Non, je me sens bien dans le noir et blanc. Je pense pas que je changerais. Peut-être un jour, je ferai... Pourquoi pas de la couleur, mais à condition qu'elle ait un rôle à jouer et qu'elle fasse partie prenante de l'histoire. Je m'estime encore une fois être plus graphiste que dessinateur. Et même avant être graphiste, comme je disais tout à l'heure, peut-être architecte ou en tous les cas écrivain. C'est-à-dire que j'ai toujours mis le texte avant le dessin. C'est une priorité. Hein. Mes histoires sont d'abord écrites avant d'être dessinées. Et du coup, le dessin n'est là que comme un art appliqué. Je voyais bien, mes dessins sont pas... on peut pas dire qu'ils soient beaux. Enfin, esthétiquement, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Ils sont juste vecteurs, si vous voulez, d'un discours, d'un système, d'une histoire, de personnages.
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, l'absence de décor ou quand ils sont noircis permet de se concentrer sur l'essentiel de la case.
Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une des vérités de la bande dessinée, c'est que le dessin est plus du côté du signe que vraiment du dessin, vous voyez, du mode représentatif. Donc là, on voit un chapeau, un cartable, un cintre, une fenêtre. Bon, le regard du lecteur, j'imagine, prend tous ces signes. Il ne le prend pas comme du dessin, mais vraiment comme des signes. Et moi, je pense que c'est en ce sens que, pareil, un rideau rouge, un théâtre. Bon, vous voyez, mais ça, je ne le fais pas exprès. C'est comme ça. C'est quelque chose que je ne contrôle pas, qui vient tout seul. Donc, je suis plus graphiste que dessinateur. Alors après, le noir et blanc par rapport à la couleur, bah, il est évident, de la même manière que quand vous lisez un livre de littérature, les textes dans les caractères sont imprimés en noir sur du blanc. Ils ne sont pas imprimés en couleur. Il n'y a pas de raison, finalement, pour que les dessins soient en couleur. Sauf si la couleur est utilisée comme signe, pourquoi pas, ou alors qu'elle soit utilisée vraiment comme des champs qui amènent le regard à se plonger dans un champ coloré. Alors je pense à des gens comme Matotti ou David Prudhomme ou Manuel Fior, ou des gens comme ça qui utilisent la couleur non pas pour ce qu'elle a de coloriage, entre guillemets,
ouais,
mais vraiment pour comme un champ, comme un potentiel de relecture de l'image par le lecteur. Et ça, en bande dessinée, c'est rare. C'est rare pourquoi ? Parce que ça prend énormément de temps. Déjà, faire un dessin efficace, simplement en noir et blanc, qui propose au regard du lecteur quelque chose de, on va dire, d'intéressant, enfin, une seconde lecture ou une troisième lecture, déjà, c'est compliqué. Mais alors, si en plus, il faut mettre de la couleur, enfin, en ce qui me concerne, c'est trop compliqué. Pour moi, ça prendrait trop de temps. Vous voyez, dans un noir, dans du noir, il se passe des choses comme dans un blanc. Je prends souvent l'exemple de Hugo Pratt, hein, les ciels de Hugo Pratt dans Fable à Venise, où le ciel est blanc et où il y a la lune. Finalement, c'est un ciel qui est bien plus intéressant qu'un ciel qui serait noir ou bleu nuit, aussi bien fait qu'il soit par un peintre, parce que cette nuit blanche qu'il y a dans Fable de Venise... est beaucoup plus porteuse de poésie et d'imaginaire, en tout cas pour moi, lecteur. Ça c'est sûr. Donc je pense que le noir et blanc est aussi une vérité pour la bande dessinée, en tous les cas autant que la couleur.
Oui, il y avait un photographe plutôt spécialisé dans la couleur qui est Ernst Haas, à qui les débutants demandaient ce qu'il fallait faire pour devenir aussi bon que lui, et il a répondu: commencez par faire du noir et blanc pendant 20 ans et ensuite, quand vous aurez compris la lumière, vous pourrez passer à la couleur, parce que vous ne l'utiliserez pas de façon imbécile, vous l'utiliserez pour ce qu'elle peut apporter en plus. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le noir et blanc, bon, là, ça peut être mal perçu. Là, ce qui fonctionne très bien, à mon avis, c'est que aussi on a des racines graphiques. Je pense notamment aux gravures de Vallotton, ou aux gravures expressionnistes des années 20, qui sont extrêmement graphiques, avec des noirs, bref, à la gravure en bois de boue. Il y a Mazerelle aussi. Donc, c'est ça fabrique effectivement des icônes. En plus, vous pouvez beaucoup plus facilement jouer sur la perspective, sur les faux semblants. Donc, a priori, c'est... je comprends qu'effectivement la seule utilisation de couleur soit finalement complètement justifiée. C'est celle dans la queue.
Dans la queue, trois petits points, dans la quadrichromie, effectivement, où la couleur à la fin du livre elle prend son sens, mais en tant que couleur, mais en tant que signe couleur. Une fois de plus, là, c'est la quadrichromie, c'est du jaune, du bleu et du rouge, et du magenta.
C'est un élément narratif.
Qui donne la quadrichromie propre à donner de la couleur dans le livre imprimé. Ouais.
On va parler un peu personnage aussi, parce que là on a par exemple une image de Sens. Alors Sens est intéressant parce que justement on ne voit pas vraiment le visage du personnage dans cette bande. Alors ça, c'est quand même une des histoires entre guillemets les plus kafkaïennes, dans le sens où on a un homme qui suit un itinéraire jalonné du signe, mais il est très difficile de savoir exactement quelles sont ses motivations, et même on ne sait pas vraiment qui il est. Et on ne peut pas, en lisant cette bande, s'empêcher de se dire: mais pourquoi il continue ? Ce qui est sûr, c'est que on ne le voit pas. Alors déjà, pourquoi ce parti pris, parce que qui est Là encore une fois étonnant, il n'y a qu'un seul personnage tout de même dans cette histoire et on ne peut pas le voir et donc quelque part on ne peut pas totalement s'y identifier en tant que lecteur.
Ouais. Alors, je ne sais pas justement, ça c'est une vraie question, ce serait quelque chose à mettre en débat. Et il me semble que justement, dans la bande dessinée, une autre des vérités qui me semble, mais encore une fois, c'est, là je pense tout haut et ce ne sont que des hypothèses et il faudrait en débattre certainement, mais il me semble que la bande dessinée a plus à voir, en tout cas a beaucoup à voir avec le théâtre masqué, dans la mesure où les personnages de bande dessinée n'ont pas besoin d'avoir de regard. Enfin, en tous les cas, ils n'ont pas besoin d'avoir des regards réalistes. Vous voyez, on n'est pas tenu dans la bande dessinée à psychologiser les personnages. Et je pense même que c'est une erreur. Ou alors, on peut le faire, mais c'est pas une loi. Je veux dire, on ne doit, enfin, c'est pas obligé de le faire. On peut le faire, et c'est une recherche en soi qui sera très pointue. Hein. Des gens comme Julliard ont essayé de le faire, ou Möbius aussi, dans certains cas. Mais en général, même les personnages sont dessinés. Vous voyez, le personnage de Julius, il a des lunettes. Je suis persuadé que s'il avait un regard, on s'identifierait moins à lui. Il n'y a rien de plus terrible qu'un regard en gros plan et très réaliste en bande dessinée. Au cinéma, ça fonctionne parce qu'il y a le mouvement et donc ça a un sens. Mais en bande dessinée, fixer un regard d'une manière réaliste, ça ne fonctionne pas. Alors que Tintin, qui a des yeux, c'est quand même une bande dessinée réaliste. Hein, oui. Il y a des vraies voitures, des vrais avions, mais son regard, c'est vraiment points, de l'abstraction. Ouais. C'est deux points complètement abstraits. Et je pense que là encore, théâtre masqué, parce que c'est ces deux points qui font qu'on s'identifie d'autant plus à Tintin. Si Tintin avait un vrai regard avec des vraies pupilles, mais ça ne marcherait pas parce que il serait ouais, psychologisé. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui est psychologisé, soit c'est moi, soit c'est pas moi. Mais si c'est pas moi, c'est mort.
Scott McLeod faisait ce type de réflexion dans son ouvrage, enfin le premier qu'il a publié, où il montrait finalement le visage de tout le monde qui est un cercle avec deux points et dans lequel finalement on peut s'identifier puisqu'il n'est pas. C'est pas un individu. Et puis après, toute la gamme jusqu'à arriver à un visage hyper réaliste où là, c'est pas tout le monde, c'est une personne. Effectivement, c'est pas forcément du coup le lecteur. Ça, c'est très clair.
Oui, quand on est un auteur littéraire et qu'on veut raconter une histoire, parmi les premières questions qu'on se pose, c'est est-ce que je vais l'écrire à la première personne ou à la troisième personne ? On se pose aussi la question, est-ce que je l'écris au présent ou au passé ? Quel est le temps de l'histoire ? Bon, je pense que la question du temps de l'histoire ne se pose pas vraiment en termes de bande dessinée. Par contre, la question du degré d'implication par rapport du lien qu'il y a entre le narrateur et le personnage du récit, elle se pose aussi. Et c'était une question que je m'étais vaguement posée. Comment est-ce qu'on exprime le jeu par le dessin ? Parce que quand on l'utilise dans le texte, le fait de dire « je » permet de ressentir l'histoire du point de vue du personnage, mais en même temps, on n'a aucune idée, sauf artifice assez peu crédible, en le faisant se regarder dans un miroir, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais le jeu, il est clair que c'est ce qui facilite justement l'identification avec le personnage. Et je crois que, en fait, c'est exactement l'expression du jeu que d'avoir un personnage qui est là, mais sans qu'il soit physiquement identifiable et sans qu'on le voit regarder. Il est neutre. Donc, et en plus, il est souvent dissimulé par un chapeau, un peu de biais, sous un angle qui fait qu'on n'est pas face à face avec lui. Donc, il n'est pas un interlocuteur. Donc, c'est moi.
Oui, c'est exactement ça. C'est un personnage que j'ai voulu le plus neutre possible. Alors, c'est vrai qu'il a un chapeau, il a un par-dessus, mais obligé un petit peu quand même de lui donner une plastique, mais la plus neutre possible, de manière à ce que très vite, un manteau, ça veut dire qu'on ne voit pas de ceinture, on ne voit pas de pantalon, on ne voit pas de chemise. Déjà, j'évince tout ça. Donc, c'est une espèce de tunique. Le chapeau, bon, on ne sait pas comment il est coiffé. Une coiffure, ça dirait déjà trop de choses sur lui, etc. On ne voit pas son regard. J'ai essayé d'en faire quelqu'un d'un peu invisible. Mais en fait, c'est le grand frère métaphysique de Julius Corentin Hackfack, hein, puisque Julius, c'est pareil. Il est Bon, il a quand même une montre, il a quand même des lacets à ses chaussures, etc. Mais ça reste quand même un personnage. Vous voyez, il est creux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le début de la fin, effectivement, on s'aperçoit qu'il est creux à l'intérieur. Donc, c'est une espèce de coquille vide. Donc, c'est une espèce de, un peu comme un fantôme, mais dont le lecteur, je pense, finit par endosser la camisole invisible, en quelque sorte. Je crois vraiment à ça. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que le jeu en bande dessinée est une gageure, parce que, sauf à faire un livre complètement subjectif, ce qu'a fait Bastien Vivès, enfin, un livre magnifique, Dans tes yeux, qui est un livre superbe, une superbe expérience, où comme ça, il dessine sa petite amie du début du livre jusqu'à la fin, et là, on est vraiment dans son regard à lui. Fallait oser, et c'est vraiment très très réussi. Mais pour le dessin, au départ, j'avais écrit tout le livre à la première personne, et au dernier moment, en fait, à un moment donné, j'ai vu que c'était une erreur, en fait, et j'ai tout réécrit avec le il, et j'ai bien fait, parce que on peut pas à la fois parler je et en même temps être le personnage. Il y a des films comme ça qui le font. Alors pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'au cinéma, on est il y a la première personne qui parle avec un timbre de voix. De toute façon, au cinéma, il y a la dichotomie du fait que j'entends là et le personnage est là-bas. Donc, de toute façon, il y a un code qu'on admet. Donc, au cinéma, c'est peut-être possible. En bande dessinée, je ne pense pas que ce soit vraiment possible de parler à la première personne et de voir la personne qui est censée être moi.
Ouais, un subjectif complet, oui, ça, c'est très délicat. Par contre, en poussant un peu le bouchon, sur 3 secondes, on a la vision subjective d'un photon pendant 3 secondes. Oui. Finalement.
Oui, c'est ça. On chevauche un photon et on fait la trajectoire en ligne droite de ce photon qui rebondit d'objet en objet. Là, c'est une vue subjective. Ouais. Ouais.
Comme nous arrivons à la fin, est-ce que il y aurait quelques questions ?
Merci. J'ai eu la chance d'aller voir l'installation Sens que vous avez mise en place à Saint-Nazaire. Et ma question, c'est un peu de savoir...
Parlez un petit peu plus près.
Pardon, parce que... je ne m'entends pas, donc ce n'est pas facile. Donc j'ai vu l'installation Sens à Saint-Nazaire. On envoie des photos de temps en temps qui défilent. Ma question, c'était, est-ce que c'est quelque chose pour Sens ou pour d'autres que vous avez cherché à faire depuis très longtemps ? Est-ce que c'est une occasion qui s'est présentée, que vous avez saisie et qui ne se reproduira pas, ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire plus souvent à terme ?
Alors, non, c'est quelque chose qui s'est vraiment présenté, une occasion qui s'est présentée, puisque le Life, en général, accueille plutôt des artistes, des plasticiens d'art contemporain. Et il se trouve que Nathalie Pou, qui était à l'époque directrice du Life, connaissait un peu mon travail et voulait tenter l'expérience d'une installation, mais qui ferait la part belle à la narration. Ce qui se fait rarement. C'est vrai qu'en général, les installations plastiques sont des objets dans lesquels on se promène librement, mais elle avait derrière la tête cette idée-là de peut-être d'allier narration et installation. Alors, il se trouve qu'effectivement, à Lucilum, nous, on l'a souvent... tenté ça, on l'a souvent testé, mais pas d'une manière aussi radicale. Et il se trouve qu'à ce moment-là, quand cette proposition m'a été faite par Saint-Nazaire, j'étais en train de terminer Sens, et donc espèce de récit qui met le vide en avant, qui scénographie le vide, on pourrait dire. Et quand on est allé voir avec l'équipe de Lucilum le live de Saint-Nazaire, qui est un énorme plein avec à l'intérieur un énorme vide. Hein. C'est, vous voyez, c'est 10 mètres de haut, 20 mètres de large, 100 mètres de long. C'est une espèce de grand, grand vide. Et habiter ce grand vide est vraiment à chaque fois un défi et une gageure pour ceux qui s'y sont attelés. Et là, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, mais c'est vraiment une trop belle occasion de pouvoir transposer Sens dans ce grand vide. Remplir du vide avec du vide, ça, du coup, ça valait le coup. Surtout que là, on était sur le champ du, du non-sens, mais du non-sens au sens de l'absurde. Donc vraiment, c'était vraiment l'occasion. Il y a eu une coïncidence, en fait. Et voilà. Et le résultat, c'est cette installation-là où il a fallu transposer évidemment des choses. Hein. On n'a pas transposé le livre directement. Il y a certaines scènes dans le livre qui sont intéressantes à lire et d'autres qui n'ont aucun intérêt à être mises en espace. Donc on a réinventé aussi d'autres scènes qui, pour le coup, pouvaient être intéressantes en immersion, on va dire, physique. Et puis il fallait rajouter aussi de la lumière, il fallait introduire aussi le visiteur dans cette idée-là, dans cette expérience quand même très particulière. Voilà.
On va peut-être devoir s'arrêter parce qu'il y a je suis désolé mais c'est vrai que il y a le planning qui nous impose de laisser la place à la prochaine table ronde. Je vous remercie à tous deux pour être venus.